Soyez cordialement bienvenus dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous allons commencer ce service avec ce glorieux cantique numéro
33.
Numéro 33. À cette occasion, je veux remercier le choral et le frère Erich de tout notre cœur, parce que dans tout le monde, il y a une réponse sur cette bénédiction. Cantique numéro 1.
Thank you.
que le Seigneur nous l'accorde à tous par sa grâce. Que nous puissions, dans la prière, avoir chanté ce cantique, vraiment avec le désir profond que tout ce que nous chantons en nous et par nous, par sa grâce, soit manifesté. Nous allons après appeler deux frères, notre bien-aimé frère Bopé de Johannesburg et le frère Mbillé, qui puisse venir rapidement devant et saluer l'Église, ou bien alors prier. Nous voulons maintenant nous lever et ensemble demander à Dieu sa bénédiction. Nous voulons, comme un cœur et une âme, le faire, ouvrir tous nos bouches et ensemble remercier le Seigneur, lui et sa bénédiction. Dieu Tout-Puissant, nous sommes en ton nom rassemblés pour écouter ta parole, le message biblique de la fin. Ô bien-aimé Seigneur, purifie nos cœurs, nos pensées. Nous t'apportons tout sous ton sang et nous te demandons ton pardon et ta grâce et ta guérison et le salut. Sois parmi nous et accorde l'atmosphère dont nous avons besoin pour que tu puisses te manifester, que tu puisses nous unir comme ton Église, sous toi le chef, car tu es le chef de l'Église. C'est ainsi que nous te demandons, bénis tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent et qui voient en direct, sois avec ton peuple dans le monde entier. Et nous te demandons pour tous ceux qui traduisent dans toutes les langues, bénis au Seigneur dans le monde entier. Ton retour est proche et nous disons Maranatha. Ô bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous et bénis-nous de la plénitude de ta grâce. Amen. Nous nous asseyons. Bien frère, bien mes frères, salue rapidement la congrégation. Oui. Je vous salue tous, bien mes frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur.
It's indeed a great pleasure to be in your midst, as well as a blessing for me.
C'est pour moi vraiment très agréable. C'est une bénédiction d'être parmi vous.
I bring along with me the greetings of all the brethren in Johannesburg, South Africa.
Je vous apporte toutes les salutations des frères et des sœurs de Johannesburg.
Because indeed we are a people sharing the same hope.
Nous sommes un peuple qui a la même espérance que vous, qui partage la même espérance que vous, et nous partageons aussi la même foi. Et nous sommes en communion les uns avec les autres. Et réellement, notre communion est avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Chers frères,
juste une petite prière ou quelques mots.
Je salue l'Église dans le précieux nom de Jésus-Christ.
Ich grüße die ganze Gemeinde in dem kostbaren Namen Jesu Christi.
Nous avons goûté ensemble hier soir
Wir haben gestern Abend gemeinsam zugehört oder gegessen.
Et nous croyons que aujourd'hui,
und wir glauben, dass heute
Dieu ouvrira encore les écluses du ciel,
dass Gott wieder die Pforten oder die Schleusen des Himmels öffnet.
Et il laissera tomber la pluie dans notre cœur.
Und dass er seinen Regen in unsere Herzen fallen lässt.
Nous avons été heureux d'être avec vous.
Wir sind mit euch erfreut.
Et maintenant, nous allons apporter vos salutations en Afrique.
Und wir bringen euch einfach alle Grüße aus Afrika.
Bientôt, nous nous retrouverons.
Sehr bald werden wir ja hinaufgehen.
Dans notre maison du Père au ciel.
Und zwar in unsere Wohnungen beim Vater im Himmel.
Parce que Dieu est fidèle.
Denn Gott ist treu.
Et il accomplira avec nous sa promesse.
Und er wird seine Verheißung mit uns verwirklichen.
Que Dieu vous bénisse richement.
Gott segne euch reichlich.
Amen.
Amen. Amen. Cher frère, aussi pour toi et pour tous les frères et sœurs. Beaucoup de bénédictions et que Dieu soit avec vous.
Merci.
Amen.
Amen.
Amen. Ganz alte Freunde,
de vieux amis,
wir kennen unseren
Bruder, nous connaissons notre frère.
Er hat eine der größten,
il a l'une des plus grandes églises
in der Congo
là-bas, en République du Congo, plus de 4000 personnes dont il prend soin régulièrement et Dieu l'a béni et l'a établi pour être une grande bénédiction. Pendant que nos deux sœurs viennent devant pour nous chanter un cantique adéquat, il y a ensuite une présentation d'enfants qui a été souhaitée. Les parents, eux, viendront donc devant. Et pendant que les sœurs viennent, je voudrais dire rapidement que nous avons reçu des salutations aussi d'un frère, Eric, de Johannesburg, de notre frère de Nairobi, de notre frère de la Roumanie. Tous ont entendu et se sont réjouis. Et aussi particulièrement de notre frère Joseph de Kinshasa, qui aussi s'occupe de l'enterrement de notre frère Mwemba. Il a particulièrement adressé des salutations à toute l'Église. Et ce matin, très tôt, il a encore appelé. Et nous sommes simplement liés avec tous nos frères et toutes nos sœurs dans le monde entier par le lien de l'amour divin, liés les uns avec les autres. Ça, ce n'est pas un amour fabriqué, mais c'est un amour qui vient de Dieu et qui nous est accordé. Et que le Seigneur puisse utiliser ces jours pour que nous soyons tous bénis et faisons un pas de plus dans la foi.
So wie der Meister möchte ich immer sein, mehr sanft und linde, mehr im Herzen klein, mehr eifrig wirken, mehr tätig sein für ihn, in seinem Dienste möcht ganz mein Herz erblühen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So stehn, mir seines Geistes verlornen nachzugehen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig gris. So wie der Meister ist mein Lebensziel, mehr seine lieb ich, andern zeigen will. Mir selbst verleugnend, wie er auf Erden war, in Treu und Liebe, wie er und wandelbar. Sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig Christ. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig lieb.
Amen.
Hier soir, nous l'avons entendu. Venez devant, nous nous levons. Nous l'avons entendu hier. Dieu a choisi le cœur. Et dans Romains, le chapitre 11, il est encore écrit. Ou bien alors dans Romains 10, l'homme croit du cœur et confesse de la bouche. Maintenant, nous allons présenter cet enfant, bénir cet enfant. Oui, bien-aimés sœurs. Bien-aimé Seigneur et Dieu, tu as donné à nos bien-aimés frères et sœurs un fils, un Élias, et il te l'amène. Nous te demandons ta bénédiction pour toute la famille. Que cela soit manifesté, que à toute la maison, le salut a été reçu. Que de toute la maison, le salut a été reçu. À cause de ton nom béni, ce Élie, nous te le consacrons au Seigneur. Agrée-le. Sois béni. Sois consacré à Dieu pour ce temps et pour toute éternité. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Chantons encore ensemble ce cœur merveilleux. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. C'est le premier cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons aujourd'hui lire, considérer tout un nombre de versets bibliques et nous représenter devant les yeux que Dieu, selon son dessein, depuis le commencement, a conduit son peuple. Et que toujours, de nouveau, il y a eu des laps de temps dans lesquels quelque chose de particulier se passait. Et pour ne pas l'oublier, nous avons déjà hier soir dit, nous avons souhaité à tous les bienvenus et aussi à notre bien-aimé frère Andrew Branham. Et s'il est encore ici aujourd'hui, peut-être que même avec la famille, nous lui demanderons de se lever. Es-tu là ce matin? Yes. Que Dieu te bénisse beaucoup.
Ouais.
Nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu, aussi dans notre temps, a eu un tuyau, un canal par lequel il a pu parler, a prononcé une commission, un mandat et un envoi, ainsi ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 1, s'est accompli. Avant ta naissance, je t'ai déterminé à être prophète pour les nations. Et nous avons aussi compris que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament et que Jean Baptiste était un prophète promis et que son ministère était une partie directe du salut, du dessein, du salut de Dieu prédestiné qui s'est accompli autrefois. Et c'est ainsi que nous avons compris que Dieu a donné les promesses d'envoyer un prophète à la fin du temps de la grâce, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, le jour du jugement, le jour obscur, comme tout est décrit de ce jour dans les Écritures, appelé jour du Seigneur, en commençant avec Ésaïe 13, à partir du verset 6 jusqu'à Apocalypse, le chapitre 6, à partir du verset 12. Tout a déjà été écrit et notre Seigneur l'a confirmé dans Matthieu 17, au verset 11, et dans Marc, chapitre 9, au verset 12. Et avec cela, c'est ainsi dit le Seigneur, la parole de Dieu et les promesses dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est pour cette raison que depuis le commencement déjà, nous avons mis l'importance sur ce que tous ceux qui veulent un jour se tenir devant Dieu, qu'ils puissent maintenant croire et accepter ce qu'il a promis, et accepter. Ils n'ont pas le droit, s'ils veulent se tenir devant Dieu, ils ne peuvent pas mépriser ce que Dieu a promis pour ce temps présent. Celui qui méprise cela, méprise Dieu et ne peut pas avoir part à ce que le Seigneur, au temps convenable ou bien alors maintenant sur terre, fait. J'ai mentionné déjà cela hier, déjà le dernier dimanche, à Zurich, Pour moi, ce sont 50 ans qui sont passés. Hier, nous l'avons dit. Alors que à Dallas, Texas, le 11 juin 1958, j'ai reçu ces 5 prédications et que Frère Branham me disait, Frère Frank, avec ce message, tu reviendras en Allemagne. Ça, je ne l'avais pas planifié, je ne l'avais pas su. C'est simplement ainsi, ça a été conduit par Dieu ainsi. Et hier, nous avons écouté la première prédication qu'ensuite j'ai traduite en allemand, unie sous une tête, sous un chef. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est nécessaire que nous puissions tous, nous tous qui venons de différentes fois, de différentes confessions, de différentes religions et églises et églises libres, de différents pays, il est nécessaire, avec nous qui venions de différentes opinions, que nous puissions oublier tout notre passé et laisser tout derrière nous pour que Dieu puisse faire un nouveau commencement avec nous tous. Ensuite, il avait été posé comme question, combien de prédications est-ce que Frère Frank a traduit en allemand? Il y a 1015 prédications et en brochure nous avons à peu près 150 et en cassette nous avons à peu près 50. Donc nous arrivons donc à 200 prédications et ensuite il y a des personnes qui probablement n'ont pas entièrement lu les 200 prédications, ou bien lu pour la deuxième fois les 200 prédications, et pour recevoir vraiment tout dans leur cœur. Ensuite, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres prédications de Frère Branham? À cela, la chose suivante. Frère Branham a dit clairement, pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois, chaque message qu'il a reçu de Dieu et qu'il l'a apporté à l'Église, il le tiendra à Jeschensonville. Toute prédication que Dieu a pour l'Église seront tenus à Jeschensonville dans son église natale. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai entendu une fois, mais je l'ai entendu plusieurs fois de la bouche de Frère Branham parce que j'ai traduit les brochures, les prédications. Plusieurs fois, il a dit cela. Donc, j'ai compris que Frère Branham, dans les différentes villes et églises où ils étaient, il a plutôt prêché de manière évangélique. Comme un évangélique, c'était de manière évangéliste, c'était pas prophétique. Et ainsi, j'ai été conduit par l'Esprit de Dieu depuis le commencement d'avoir compris que toutes les prédications que Frère Branham, depuis l'ouverture des 7 sceaux, a tenues à Jeschensonville, je dois les traduire en allemand. Et ça, c'est ce que j'ai fait fidèlement. En commençant avec mars 1963, d'abord, j'ai traduit toutes les prédications que Frère Branham a tenues dans son église natale à Jeffersonville. Et alors que j'étais arrivé à la dernière, nous sommes repartis en arrière et nous avons ensuite traduit toutes les autres prédications que Frère Branham, depuis 1963, avait tenues. Toutes les années 65, toutes les années 64, toutes les années 63, nous les avons traduites. Et il y a des frères et des sœurs, pour être sincère et avec véracité pour l'exprimer, ça suffit. Ça suffit. Pour être sincère, si nous lisons tout le message qui a été tenu depuis l'ouverture des sceaux, si nous recevons cela de tout notre cœur et que nous le recevons révélé par le Saint-Esprit, alors je n'ai rien à craindre et vous non plus. Donc, comme deuxième chose, il s'agissait aussi de ce que dans toutes les autres langues, il faut aussi que ces prédications-là soient à la disposition du peuple de Dieu. Donc, soyez sans souci, nous avons au nom du Seigneur fait ce qu'il nous a ordonné de faire et aujourd'hui, je ne pourrais rien changer aux choses ou bien alors changer les choses. Maintenant, il s'agit des choses suivantes et que cela soit entendu dans le monde entier et aussi reçu de tout le cœur, de tout cœur. Il y a deux choses. Il y a la semence originale et la semence originale est toujours la parole. Et on doit encore une fois lire exactement Matthieu 13 et aussi les versets parallèles dans Marc 4 au verset 14 et dans Luc 8 verset 11 pour discerner exactement et savoir que la parole de Dieu est la semence originale. Et que chaque interprétation est la semence des discordes, est la semence de l'adversaire. Et celui qui lit dans Matthieu 13 et qui lit ce chapitre lentement dans la prière constatera qu'il est écrit pendant qu'il dormait, l'adversaire vint et sema sa semence. Et pas n'importe où, là où la bonne semence, là où le blé a été semé, c'est là qu'il a semé sa semence. Et les deux ont poussé. Les disciples étaient terrifiés et ont dit, mais maître, permets-nous de déraciner les mauvaises herbes. Et en fait, il est écrit là, dans le texte original, pas seulement mauvaises herbes, mais apparence du blé. Les mauvaises herbes avaient l'apparence, la semence que le diable a semée avait l'apparence du blé, mais n'avait pas de grain. Ressemblait exactement comme le blé. Comme la tige, etc., mais est plus mince et n'a pas de grain en elle. Donc, cette semence a été semée parmi le blé et nous avons la même chose après que le message de manière claire a été prêché. Nous avons vu que des frères ont apparu avec leur interprétation, toujours en se référant à la parole, en se référant à ce que frère Branham a dit et ne pense même pas à revenir à la parole pour examiner si ce qu'ils disent est selon les Écritures, est dans les Écritures, pour que c'est un fondement biblique. Nous lisons encore une fois ces deux versets que nous avons hier soir lus de 1 Corinthiens, le chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4, oui, versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous devons compter combien de fois Frère Branham a parlé là-dessus
durch den Dienst des siebten Botschafters,
disant que par le ministère du septième ange, tous les mystères du septième ange de l'Église, tous les mystères seront révélés de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans Matthieu 13, dans ces sept mystères du royaume de Dieu, il nous est montré déjà ce qui est dans le plan de Dieu depuis même la fondation du monde. Et c'est ainsi que nous devons être, nous serviteurs de Christ, dispensateurs des mystères de Dieu. Si j'avais su ces mystères, si nous avions, j'aurais su ces mystères, est-ce que nous aurions su ces mystères si Dieu n'avait pas envoyé un ministère prophétique? Et c'est ainsi que nous avons compris que la parole de Dieu n'est pas venue à un évangéliste ou bien à un charismatique, mais la parole de Dieu vient à un prophète. Dieu lui-même a un modèle depuis le commencement et il fait tout selon ce modèle jusqu'à la fin. Donc, comme dans Apocalypse, le premier chapitre, dans les premiers trois versets, il est décrit que Dieu le Seigneur a envoyé son ange pour révéler à son serviteur Jean ce que tous les autres serviteurs doivent aussi savoir. Vous pouvez lire dans les trois premiers versets de l'Apocalypse, au chapitre 1, ce que Dieu a révélé à un serviteur était pour tous les serviteurs de Dieu qui portent et transmettent la même prédication, les mêmes prédications. Ici, d'Apocalypse, chapitre 1, au premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, au pluriel, à ses serviteurs, au pluriel, qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, Dieu a utilisé un serviteur, pour montrer à tous les autres serviteurs la même révélation, pour accorder aux autres ministères, aux autres serviteurs, la même révélation. Et ainsi, tous ceux qui prêchent la même parole, cette même parole, sont dans le même Saint-Esprit et sont conduits dans les mêmes mystères, tel que ce serviteur au singulier avait été utilisé par Dieu pour recevoir ces choses. Maintenant, aussi adressé au pluriel, au serviteur de Dieu, au verset 2, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, maintenant au pluriel. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pas seulement le dispensateur, le messager, le serviteur que Dieu utilise pour révéler sa parole, ses mystères, comme par exemple Jean, mais tous les serviteurs qui portent la même parole doivent aussi être trouvés fidèles et demeurer dans le cadre des Écritures. Ensuite, nous allons encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas un prophète. Nous ne prêchons pas un prophète, nous ne prêchons pas un apôtre. Nous prêchons seulement Jésus-Christ en tant que le Seigneur, en tant que le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela en accord avec ce que Dieu a révélé à tous les prophètes et à tous les apôtres. Et dans notre temps, d'une manière nouvelle, à placer sur le chandelier. Depuis ma visite, maintenant le mois passé, particulièrement au Pérou, alors que 31 frères étaient rassemblés des différentes directions à l'intérieur du message, c'est ainsi qu'il a été dit. Les uns croyaient que frère Branham doit revenir. C'est l'enseignement principal. Et pour eux, il n'y a aucune prédication où, d'une manière nouvelle, ils insistent de dire que le ministère du prophète n'est pas achevé. Il doit de nouveau revenir. C'est l'une des doctrines des enseignements dans toutes les régions espagnoles, en Amérique du Sud et bien sûr aussi, en grande partie. Au nord du continent américain. On doit se représenter que l'attention est attirée sur l'homme envoyé de Dieu, est dirigée sur lui. Et le retour du Seigneur Jésus-Christ et notre préparation n'est même plus un sujet pour eux. Mais notre sujet principal, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Elle appelle à sortir et la préparation de l'Église épouse pour le jour glorieux de notre Seigneur. Et vous savez, et vous l'avez entendu, ou alors vous l'entendez maintenant, ce qui s'est passé. Simplement, j'ai dû parler avec tous ces frères-là un texte clair. Et je leur ai dit, avec tout le sérieux et la décision, s'il n'y a pas de promesse pour ce que vous attendez dans la Bible, il n'y aura pas non plus d'accomplissement. S'il n'y a pas d'exemple dans la Bible dans laquelle un homme de Dieu n'est pas revenu, est revenu, alors je ne veux pas le croire. Et nous ne trouvons pas les deux dans la Bible, ni une promesse, ni un exemple. Même Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, deux fois, l'une après l'autre, il a été dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est reparti à la maison. Pour nous, d'une manière qu'on ne peut pas comprendre. Et il ne vivait plus jusqu'au moment de la crucifixion. Et ça, c'était la prétention, n'est-ce pas, que le dernier messager doit être encore sur terre quand le Seigneur revient. On ne peut pas rentrer dans les détails de ces témoignages de ce qui est cru. Et ensuite, spontanément, la pensée m'est venue continuellement de ne plus dire le message de la fin des temps, mais le message biblique de la fin des temps. Le message de la Bible, la parole promise de Dieu pour cette époque. Et je le dis ouvertement et librement, tous ceux qui ont perdu le respect pour la parole de Dieu et ne trouvent pas cela pour nécessaire d'ouvrir leur Bible. Et comme cela a béré dans Actes apôtres 17 verset 11, d'examiner tout ce qu'ils entendent pour voir si cela est exact. Non. Au lieu de faire comme dans Actes 17 verset 11, comme à béré, ils ferment leur Bible, ils ne l'ouvrent pas. Et ils font des fantaisies dans leurs imaginations et comme ça sont en train de joindre des citations de frère Branham l'une après l'autre, même l'une sur l'autre et l'autre, et ne pensent avec aucune pensée à consulter Dieu et à recevoir la dernière réponse et la dernière conviction de la part de Dieu et sa parole. Et ça, je le dis ouvertement et librement, Il n'y a aucun homme sur terre qui pourrait estimer plus que moi le ministère de frère Branham. Parce que réellement, dans les premières prédications, le 9 août 1955, j'ai su déjà, dans mon cœur, je savais, depuis 1955, que cet homme est un homme envoyé de Dieu. Et si ensuite je pense à toutes les autres rencontres avec Frère Branham et toutes les différentes réunions dans lesquelles j'étais et tous les entretiens privés avec lui, ils me sont restés précieux. Je ne peux pas dire autrement. J'aime bien me rappeler de tous ces moments merveilleux et tout ce que Frère Branham m'a dit. Quand ensuite je reçois 4 CD et tous les 4 frères ont connu aussi frère Branham, étaient avec lui ensemble et tous les 4 prétendent que le prophète m'a dit ceci et cela et il reviendra pour que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Et ensuite, j'ai une question alors à tous ces 4 frères. J'ai une question et à tous les autres frères qui s'énumèrent et osent tordre ce que le prophète a dit, l'interpréter de leur propre chef et en faire une interprétation et un enseignement. Comme première question, je voudrais, dans tout l'amour et l'humilité mentionnée, je me suis ici écrit les versets bibliques de Moïse. Comment est-ce que Dieu l'utilisait pour accomplir les promesses qu'il avait données déjà à Abraham, que après 400 ans, le peuple d'Israël sortira d'Égypte pour faire sortir le peuple d'Égypte après 400 ans. S'il vous plaît, lisez ce que cet homme de Dieu, après l'accomplissement de son mandat divin, disait. Ça, je voudrais simplement le toucher. Nous n'allons pas pouvoir entrer dans les détails et nous arrêter là-dessus. Et je le fais seulement parce que je veux vous montrer, aussi montrer à tous les frères dans le ministère sur terre, montrer à tous que ça continue toujours et que quand un abs de temps terminé, qu'un ministère vient à sa fin, un autre abs commence et un autre ministère commence et ça continue toujours. Ici dans Deutéronome, le chapitre 33, verset 34, le dernier chapitre des 5 livres de Moïse, ici il est écrit à partir du verset 26. Deutéronome, chapitre 33, verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'Israël d'éternité est un refuge. Et sous ses bras, l'Éternel est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, exterminé. Maintenant arrive. Israël est en sûreté dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leur lieu. élevés.
Dahin auf ihren
et tu fouleras leurs pieds élevés, leurs lieux élevés. Ici, Moïse conclut la partie que ferme la partie que Dieu lui avait accordée à lui. La partie dans la, pour laquelle Dieu le Seigneur l'avait utilisé pour achever, pour accomplir ce qui était dans le dessein de Dieu autrefois. Ici, sont dans les derniers versets. Dans Deutéronome, le chapitre 34, maintenant au verset 10. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël deux prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Moïse n'avait plus besoin de revenir. Car ce que Dieu devait faire avec lui, Dieu l'avait fait. Il n'y a rien qui a manqué. Rien n'est resté encore à faire. Avec ce que Dieu voulait faire par Moïse, avec des arguments, on pourrait dire, oui, mais Moïse est allé seulement sur la montagne de Nebo et il n'est pas entré dans le pays de la promesse. Mais c'est comme ça que ça avait été décidé par Dieu. Qu'est-ce que nous voulons changer là-dessus? Il avait achevé son mandat et il fut pris dans la gloire. Ensuite, nous avons la fin de l'abs de temps de Josué. Dans Josué, chapitre 23, ici, nous voyons aussi tout un résumé de ce qui s'était passé autrefois selon la volonté de Dieu. Josué, chapitre 23, au verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes parole prononcée sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. C'est ainsi que Josué conclut son abs de temps qui lui avait été accordé par Dieu pour que toutes les promesses que Dieu avait données trouvent leur accomplissement. Et ensuite, il pouvait entrer dans son repos éternel. Pensons encore à David et à Salomon. Ouvrons pour cela 1 Chronique chapitre 21 pour voir et pour lire de quelle manière chaque homme de Dieu qui avait un ministère, un mandat en relation avec l'histoire divine du salut, de voir après la fin du ministère comment est-ce que il fut achevé et aucun n'avait besoin de revenir. Aucun n'avait besoin de revenir. Ici dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 2 et 3. Le roi David se tint debout et dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Verset 3, mais Dieu m'a dit, Vous savez, David avait déjà reçu la vision. Il l'a vu exactement comment est-ce que tout devait être bâti et construit. Et ensuite, il l'a transmis à Salomon le plan. David a vu et il voulait bâtir. Mais il n'avait pas besoin de le faire, car Dieu avait utilisé quelqu'un d'autre pour cela. Il avait le droit de croire que Dieu allait l'utiliser pour cela, l'arche de l'Alliance, pour construire, pour l'arche de l'Alliance, un temple pour que Dieu puisse y habiter parmi son peuple. David avait le droit de le voir en train de bâtir. Et ensuite, Dieu a décidé autrement, comme nous pouvons le lire. Ici, dans le prochain chapitre, le prochain verset, particulièrement dans le chapitre 28, toujours, au verset 3 et 4. Mais Dieu m'a dit, au verset 3, David voulait bâtir. Il avait vu la vision, il voyait, il voulait. Ensuite, Dieu lui a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Judas pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. C'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. La fin du verset 4. Ensuite, au verset 6. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Et je serai pour lui un père. Nous voyons que les chemins de Dieu peuvent être différents que nous puissions, que nous pourrions les comprendre ou bien les décider. Tout en son temps. Encore un verset ici, dans 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Au verset 1.
Hierauf redete der König David.
Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme. Mais il est pour l'Éternel Dieu. Le temple ne devait pas être construit pour que David ou bien son fils Salomon se fasse un nom et se glorifie. Mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Le temple de Dieu, là où l'arche de l'Alliance devait être apportée, c'est pour cette raison, pour que Dieu ait communion avec son peuple. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Dans le même chapitre, chapitre 29, versets 10 et 11, David loua l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Loué sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père, Israël. » Ensuite, le verset 11, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement, au-dessus de tout. En allemand, et tu es le chef au-dessus de tout. Ça, nous l'avons entendu déjà hier. Beaucoup de souverains, beaucoup de chefs qui gouvernent et qui dominent sur les différents groupes. Mais le Seigneur, lui, est le chef de son Église. C'est ainsi que c'est écrit. Et c'est ainsi que les choses restent et demeurent pour toujours. Nous pouvons particulièrement considérer les versets bibliques dans l'Épître aux Colossiens, Christ, le chef de l'Église. Mais rapidement, les versets pour nous montrer rapidement qu'il y a eu différents apps de temps qui devaient exister. Et chaque homme appelé de Dieu avait la responsabilité pour faire en son temps ce qui était dans le plan de Dieu déterminé et voulu. Ensuite, dans 2 Chroniques, le chapitre 3, ici nous avons la construction du temple sur la montagne de Moria, là où Abraham avait sacrifié Isaac. Tout cela, depuis Abraham, par Moïse, Josué et tous ces hommes de Dieu, tous ces différents arbres de temps, et ensuite l'accomplissement, ici, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, au chapitre 3, verset 1, sur la montagne de Moria, là où qui avait été indiqué à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornana, le Jérusalem. Nous connaissons tous l'histoire. Elle n'a plus besoin d'être lue encore. Pourquoi est-ce que je suis reparti dans l'Ancien Testament? C'est pour nous montrer que Dieu, pour des apps de temps et des devoirs particuliers, a remis à son peuple des devoirs et des responsabilités à remplir. Revenons au message de l'heure. Revenons à la parole du Seigneur. Ça, nous le disons dans tout le sérieux encore une fois. Dieu est seulement dans sa parole. Et c'est seulement la parole qui est la semence divine. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole devenue chair. Au commencement était la parole, pas les interprétations. Aussi dans le jardin d'Éden, dans le premier chapitre, il est écrit, au commencement était la parole. Et dans Genèse chapitre 3, l'interprétation a suivi. C'est ainsi que frère Branham le montre. Dans la parole, tant qu'ils étaient dans la parole, tant qu'ils restaient dans la parole, les premiers hommes étaient conservés. La parole était comme une protection autour d'eux. Et l'adversaire ne pouvait pas les toucher tant qu'ils restaient dans la parole. Et ensuite, la ruse du diable. Oui, est-ce que Dieu aurait dit? Sûrement que vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez intelligent. Vous avez seulement besoin de manger de l'arbre de la connaissance, et c'est ainsi que vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Imaginez-vous une telle chose. Vous serez comme Dieu. Et c'est ainsi que cela a bien sûr touché leur cœur. Comment vont les choses aujourd'hui? Au commencement était la parole. Et frère Branham était le prophète qui a été envoyé avec la parole. Je suis sincère. Il n'y aurait pas eu ne serait-ce qu'une seule désunion si toutes les prédications de frère Branham avaient été laissées telles qu'elles ont été tenues dans leur contexte, tout sans problème aurait été en ordre. Et aujourd'hui, nous aurions eu une église de Jésus-Christ qui s'étend sur plus de millions de personnes. 3 millions de personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous demande, s'il vous plaît, de le faire. Et nous le lisons ensemble maintenant, dans Matthieu, le chapitre 25, c'est-à-dire en relation avec Matthieu 13, alors qu'il dormait, l'adversaire vint et a semé. Pendant qu'il dormait, il a semé sa semence. Pendant qu'il dormait, et ensuite a disparu. Mais les deux semences ont grandi ensemble. Et cela se répète selon Matthieu 25 dans notre temps. Je lis seulement le verset 5 et 6. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les folles et aussi les sages, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Revenons à Matthieu 13. Alors qu'ils dormaient dans Matthieu 13, disons les choses ouvertement et clairement. Au commencement, alors que le message avait été porté, après le retour à la maison de frère Branham, depuis 1966, et pas que je le voulais, mais c'est ainsi que c'était. Dieu a accordé sa grâce et il m'a utilisé même à Jeffersonville, le 12 et le 13 avril 1966, pour faire en sorte que les prédications de frère Branham soient imprimées. Jusqu'à cette date, il n'y avait aucune prédication de frère Branham en imprimerie, en forme de brochure. Et j'ai demandé, il faut que les prédications de frère Branham soient en forme de brochure pour qu'on puisse les traduire. Et c'est ainsi que le message de la fin des temps, le message biblique, a commencé à avoir son cours depuis le commencement. Ça, c'est pas moi qui l'ai déterminé ainsi. Ça venait de Dieu avant même la fondation du monde. Et c'est ainsi que je n'ai pas seulement apporté la parole en Amérique du Nord, mais avec le frère Gardolan, avec le frère Jackson Sylvine en Amérique du Sud et en Afrique. Et dans tous les pays du monde, nous avons porté le message. Dans les années, au commencement des années 60, tous, nous étions remplis de feu et nous étions un feu et une flamme. Et nous savions que le retour du Seigneur Jésus-Christ est devant la porte et est proche. Et nous étions en esprit plein de feu dans le Seigneur pour le servir, prêts à le servir. À cet endroit, nous nous rappelons, n'est-ce pas, aux années 70, où réellement, dans chaque réunion, d'une manière nouvelle, nous avions une espérance nouvelle et nous avions été bénis. Et voilà que le temps vint où l'adversaire a attaqué. C'était alors que nous n'étions pas assez veillants. Alors que nous dormions, alors que le feu s'était refroidi et que nous ne comprenions pas ce qui était en train de se passer autour de nous. Et depuis ce temps, l'adversaire a apporté une interprétation l'une après l'autre. Et la semence a malheureusement porté du fruit. Jusqu'à cette date, nous étions une flamme de feu, prêts à servir le Seigneur, portant le message. Peut-être que cela doit être aussi dit. nous nous étions rassemblés aussi autrefois. Nous avions l'impression, cela va encore se confirmer, que ceux qui écoutaient n'ont pas mis toute l'importance sur la parole telle qu'elle est apportée aujourd'hui. Aujourd'hui, toute l'importance est placée sur la parole. À l'époque, les choses étaient un peu partagées. L'importance était d'un côté mise sur la prédication, mais on doit malheureusement le dire, l'importance était plus reposée sur les dons exercés. Jusqu'au point où la prédication avait perdu la première place, la deuxième place, mais que pendant la prédication, on faisait qu'attendre une prophétie ou bien un parler en langue par l'exercice d'un don. Mais la parole du Seigneur par les Écritures, ce n'était plus le poids, l'importance, le centre dans les prédications, dans les réunions. Et le diable s'est servi de ça, de manière brutale et de manière malicieuse. Et il a séduit. Et tout ce qui a été en relation avec cela, et nous le répétons encore une fois, ensuite, cela est passé d'interprétation en interprétation et d'un enseignement à un autre. Jusqu'alors, jusqu'à cette date, il n'y avait pas d'interprétation de tonnerre. Il n'y avait pas une interprétation comme quoi Frère Branham doit revenir. C'est depuis cette date, que toutes ces interprétations et ces doctrines ont apparu. Maintenant, revenons à ces deux versets, Matthieu 13 et Matthieu 25, alors qu'il dormait. Alors que l'époux tardait, tous se sont assoupis et dormaient, et se sont endormis. Cela s'est passé. Mais ensuite, au verset 6, il est écrit, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, ou alors l'époux est là, allez à sa rencontre. Après ce qui s'est passé, selon cette écriture, le moment arrive où le cri, ou bien l'appel, le cri à l'intérieur de ceux, parmi ceux qui s'étaient levés pour aller à sa rencontre, c'est à ce moment-là qu'il y a un réveil. Il y a une orientation à revenir à la parole pour que, à la fin, une épouse église apparaisse, se cristallise et soit transformée à l'image de Jésus-Christ. Je me suis fait des pensées d'écrire une lettre circulaire et je suis très en colère intérieurement de ce que les pères des églises ont interprété et tordu certains versets bibliques et les ont utilisés pour infiltrer des doctrines pernicieuses. Il y a trois versets bibliques que je me suis écrits. Je les connais maintenant par cœur. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et dans ce « à notre », le mot « notre » a été interprété comme étant la Trinité, comme étant trois personnes. Ensuite, Genèse 11, verset 7, descendons, et voyons de nouveau, ils interprètent cela comme trois personnes de la divinité. Et la chose la plus grave, je l'ai lu, cela, on reçoit la nausée de lire cela. La chose la plus grave, c'est Genèse chapitre 18. Alors qu'Abraham avait levé ses yeux et qu'il vit trois hommes. Et voilà, l'interprétation s'intitule, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis en colère en esprit parce que le blasphème va trop loin. On a seulement besoin pour cela d'aller dans Genèse chapitre 19 et de voir que ces deux hommes étaient venus à Sodome et que les homosexuels, ceux qui étaient livrés à l'homosexualité, ont voulu les saisir, ont voulu se prendre à eux. Et voilà que cette interprétation de la Trinité maudite prétend que ce serait le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'explication pour une telle folie. Imaginez-vous une telle chose. Ils utilisent de tels versets bibliques pour justifier et pour inventer l'enseignement de la Trinité. Ils n'ont même pas pensé à quel blasphème est lié à cela. Mais nous l'avons entendu hier. L'adversaire utilise la tête. Utilise les têtes. Mais Dieu, lui, utilise le cœur. Et quand ensuite on continue à lire que 318 de ces 550 du concile de Nicée, les uns étaient pour, les autres étaient et le reste était, les 550 étaient pour et les autres étaient contre. Est-ce que nous sommes en train de voter pour un enseignement ou bien est-ce que l'enseignement est déjà révélé par Dieu dans sa parole? Pour nous, l'enseignement de Dieu est déjà dans sa parole. On n'a pas besoin de voter pour être d'accord ou pas. Je suis de tout mon cœur d'accord avec toute la parole de Dieu. Et je suis reconnaissant pour la parole de Dieu. Et nous sommes contre ce qu'ils font de la parole de Dieu. Et nous venons à ce résultat, à cette décision que les pères des églises dans le royaume romain n'ont rien fait d'autre que d'interpréter et d'interpréter et que rien n'est resté dans sa forme originale. Tel que ça nous a été transmis dans la Bible, rien n'est resté dans sa forme originale. Ils ont fait qu'interpréter, interpréter et interpréter. Et aussi les versets du Nouveau Testament. On ne peut pas ici rentrer dans les détails. Le temps passe rapidement. Mais tout a été interprété. Matthieu 28, verset 19, est devenu une forme. On peut le lire dans les nouvelles de l'Église évangéliste luthérienne. La proposition a été faite que aussi tous les luthériens puissent aussi se faire le croix au nom du Père, du Fils, se faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi les protestants luthériens. Tous reviennent dans le sein de la mère et tous sont dans l'erreur, ont été conduits dans l'erreur. Et c'est peut-être raison que Dieu a envoyé un prophète pour nous faire sortir de toutes ces erreurs, de toutes ces interprétations et de toutes ces déductions et ces tromperies. Pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener à sa parole. Et maintenant encore, à cette grande douleur. Ce n'est pas à supporter ce qui est écrit dans Matthieu et ce qui est interprété dans Matthieu 28. Ce n'est pas à supporter ce qui est interprété dans Matthieu 16. Tiens, Pierre est sur ce rocher. Mais pas sur toi, mais sur ce rocher. La révélation de Jésus-Christ, c'est sur cette révélation de l'Esprit de qui est Jésus. C'est sur cette révélation qui est fondée l'Église. Et nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ces choses. Je suis simplement en colère dans l'esprit en moi. Je ne peux rien dire d'autre que ça. Le peuple est égaré dans le christianisme et dans toutes les autres ismes et les autres religions. Mais le grand problème, la grande douleur, c'est la tromperie à l'intérieur du message. Tout le reste donc concerne les autres. Mais le message divin nous concerne. Me concerne. C'est là que nous avons les promesses de Dieu. Et je pense à ce mandat de frère Branham du 11 juin 1933 vers 14h l'après-midi, alors que la lumière descendit visiblement pour plus de 400 personnes, de 4000 personnes, et la voix a retenti audiblement, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et maintenant, écoutez bien. Dans cette nouvelle maison, à Tucson, Ariston, que nos frères et sœurs ont bâti pour le frère, ont construit pour le frère Branham, dans laquelle j'étais aussi, sur la porte, à l'intérieur, il est écrit, il est gravé, c'est ainsi que tu seras précurseur du retour du Christ. Tu, adressé à frère Branham. Pas comme le Seigneur, comme, pas tel que c'est sorti de la bouche du Seigneur, pas faisant référence au message, mais ils font référence à frère Branham. C'est gravé sur sa porte, par les frères. Et ils interprètent, et c'est à cause de ça que tous ne peuvent pas prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Parce que aucune, parce que toutes les phrases du mandat à frère Branham ont même été interprétées. Et cela fait mal au cœur. Et cela est devenu leur prédication principale. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont livrés au mensonge et à un esprit menteur. Et que l'adversaire les trompe et leur raconte des histoires. Soyons sincères. Où est-ce qu'aujourd'hui, à l'intérieur du message, l'évangile de Jésus-Christ, avec la conversion, avec la nouvelle naissance, avec le baptême du Saint-Esprit, avec tout ce que nous avons en tant que plein évangile, que nous pouvons désigner comme plein évangile. Ils font que dire, le prophète a dit, et personne de tous ces hommes, et cela me met en colère aussi, dit ce que le Seigneur, dans sa parole, a dit. S'il vous plaît, écoutez cela, vous, tous les peuples. Le message biblique de la fin des temps est la parole révélée de Dieu. Et la parole révélée de Dieu est la Bible, est le message biblique de la fin des temps. Il n'y a pas de chose. Il n'y a qu'un seul dessein du salut de notre Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes ramenés à cette parole authentique. Encore le grand problème auquel nous ne pouvons pas encore entrer. J'ai fait que le mentionner pour vous montrer que nous tenons dans un grand combat spirituel et que d'un côté, nous devons corriger devant Dieu pour toute éternité que frère Branham est le prophète promis envoyé, était le prophète promis envoyé de Dieu avec le message divin. Avec le message de Dieu avant le retour du Christ. Et qu'ensuite, de nouveau, nous devons dire que les frères qui, de cette citation du frère Branham, font des interprétations et des doctrines, ils sont trompés par le diable. Et cela se passe parce qu'ils ne sont pas assez veillants et qu'ils ne sont pas restés dans la parole. Et ils sont allés au-delà des Écritures. C'est peut-être raison que le diable a pu infiltrer et semer sa semence. Et partout, il y a eu de la discorde. Et partout, de l'inimitié et de l'adversité et des divisions. Et il nous a même dit que dans notre ville, il y a 9 différentes églises dans le message. 9 dans la même ville ici. 9 dans une seule ville. Dans une seule ville, dans un seul pays. Alors, on n'a même pas besoin d'être assez spirituel ou bien intelligent. Alors on comprend qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être vrai. Et qu'il y a quelque chose. Là-bas, c'est un homme, des hommes qui suivent un homme. Et que quelque part, on ne peut pas dire que tous ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est pas possible. Résumons ensemble de quoi il s'agit. Tout doit être biblique. D'abord, une parole adressée à tous ceux qui éventuellement veulent se laisser baptiser. Nous avons ces déclarations claires des Saintes Écritures et Le baptême biblique, dans sa pratique telle que dans Matthieu 28, au verset 19, il a été ordonné. Nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au chapitre 8, au verset 10 et au verset 19. Donc nous avons une confirmation de la pratique du baptême que Pierre avait reçue comme ordre missionnaire de la bouche du Seigneur. Nous avons la confirmation qu'il avait bien compris et qu'il savait que Dieu en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. Et que dans le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, Seigneur Jésus-Christ, on doit baptiser. Et que tous ceux qui sont devenus croyants doivent être baptisés dans ce nom de la Nouvelle Alliance. Alors, on n'a pas besoin de partager les paroles ou bien de dire dans le nom ou bien au nom. Dans Matthieu 28, dans les paroles, dans leur forme originale, il est dit, allez dans le monde entier, enseignez tous les peuples à prescrire, donc enseignez tous les peuples à observer tout ce que je vous ai prescrit, et baptisez-les dans mon nom, c'est comme ça dans le texte original, dans mon nom, de Genève, Nestlé. Bien-aimés frères et sœurs, laissons Matthieu 28, tel que c'est écrit comme ça pour le moment. Mais il faut que cela soit révélé de toutes les manières, pas seulement de répéter une forme, mais il s'agit de la révélation, de savoir quel est le nom dans lequel on doit baptiser. D'abord de comprendre qu'il faut baptiser dans un nom, alors que tous ceux qui ne sont pas encore baptisés sachent que le baptême divin, le baptême biblique aussi appartient à notre vie de croyant, car c'est écrit, répentez-vous que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ensuite, il est écrit au verset 41, dans Actes apôtres, chapitre 2. Tous ceux qui reçurent sa parole se laissèrent baptiser. Tous ceux qui reçurent sa parole. Ils n'ont pas discuté, mais tous ceux qui réellement ont reçu la parole de Dieu se sont laissés baptiser. Comme c'est écrit dans Marc 16, au verset 16, celui qui croit et se laisse baptiser sera sauvé. Donc on ne peut pas d'un côté dire qu'on croit. On ne peut pas dire non plus que celui qui croit est sauvé, mais on doit dire que celui qui croit et qui se laisse baptiser est sauvé. Celui qui croit, car à l'obéissance, à la foi, on doit ajouter l'obéissance. L'obéissance de la foi, il faut qu'il se soit les deux. C'est ça qui nous sauve, l'obéissance de la foi. Alors que Frère Branham s'était laissé baptiser dans l'église baptiste, il a exigé du docteur Rolls Davis, qui avait baptisé tous les autres dans les titres. Frère Branham lui a dit, « Moi, je veux que tu me baptises selon le modèle apostolique, et c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et Dr. Roy Davis, David lui a dit, « Bon, je respecte cela. » Et c'est ainsi qu'il l'a baptisé Frère Branham. Ensuite, Frère Branham, lui, a prêché ce baptême biblique. Et c'est ainsi que, d'une manière nouvelle, nous avons l'introduction dans l'alphabet de l'Église du Nouveau Testament. L'ABC. Et c'est ainsi que nous baptisons de cette manière et que nous continuons. Et nous demandons à tous qui nous attendons à la perfection, à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et dans ces 50 années passées, en tout, ce sont même 55 années au service du Seigneur et de la prédication de la parole, 55 ans. Mais regardons aux 50 ans passés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Imaginez-vous si au milieu des années 70, il était déjà revenu. Alors, beaucoup de vous qui êtes ici aujourd'hui et dans le monde entier aussi qui écoute n'auraient pas été sauvés. S'il était déjà venu dans les années 70 ou bien dans les années 80 ou bien quelque part dans les passés, il y en a beaucoup qui n'auraient pas été sauvés. Alors là, on doit aller à 2 Pierre chapitre 3 et savoir que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience jusqu'à que les derniers entrent et que les derniers soient ajoutés et soient appelés à sortir. De manière très claire, nous pouvons dire que Jésus-Christ ne vient pas trop tard. Nous avons les Écritures, nous avons lu les Écritures et ils se sont tous endormis. Ça, c'était le moment, l'abs de temps dans lequel l'adversaire a semé ses interprétations en tant que semence de discorde. Et je ne vais pas m'excuser pour cette déclaration. Chaque interprétation est une abomination pour moi, directement. Je ne vais jamais vouloir changer cela et je n'ai pas besoin de changer cela. Seulement la parole de Dieu et seulement ce qui est écrit est parole de Dieu et demeure éternellement. Et dans cette parole, dans ces mystères, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur la chute de l'homme, fondamentalement, tout le dessein du salut de notre Dieu a été prêché dans la parole de Dieu. Comme il y a 2000 années, cela n'a jamais existé. Et dans notre temps, Dieu a résumé tout. Et tel que dans le Nouveau Testament est écrit, et tel que cela concerne le destin du salut, Dieu nous a laissé savoir et nous a révélé tout. Mais ensuite appartient aussi cela. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, alors vous serez réellement mes disciples, mes vrais disciples. Alors c'est écrit aussi, appartient aussi à cela. Sanctifie-les dans ta parole. Ta parole est la vérité. Dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, appartient aussi à cela, tous ces autres versets. Alors, nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère du prophète. Et j'ajoute à cela pour le ministère inouï, unique, car qui a été donné à que aucun autre homme de Dieu avait, ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques. Car c'est ce que l'ange de l'Éternel avait dit à Frère Branham le 7 mai 1946. Autrefois, le signe du Messie s'était manifesté aux Juifs et aux Samaritains. C'était fait connaître aux Juifs et aux Samaritains, c'est-à-dire le ministère de notre Seigneur, en tant que prophète, autrefois, aux Juifs et aux Samaritains. Il pouvait dans Jean dire, avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu. Il pouvait dire, avant que André t'a appelé, ou bien qui c'était, t'as appelé, je t'avais vu. Ensuite, tu t'appelles. Il pouvait dire leur nom, Il les avait vus à l'avance, avant qu'on les avait appelés. Et il pouvait dire leur nom, il pouvait dire à la femme au puits, tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. Il pouvait dire à tes disciples, allez dans la ville, là et là vous verrez un homme qui porte un seau, dites-lui, le maître veut tenir dans ta maison la Pâque, le souper. Il pouvait dire, allez, vous verrez un homme avec une ânesse et dites-lui, le Seigneur en a besoin, le maître en a besoin. Et presque dans chaque ligne de prière, Frère Branham pouvait dire à plusieurs personnes les secrets de leur cœur. Et il s'est fait référence aux paroles du Seigneur. Et il disait, j'attends quelque chose. Il attendait que la gloire du Seigneur descende et que l'ange de l'Éternel lui-même vienne sur la plateforme. Et ensuite, Frère Branham voyait en vision la personne. Et comme hier, nous l'avons entendu, Frère Branham pouvait leur dire qui est-ce qu'ils sont et ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient. Je suis témoin oculaire. Souvent, je l'ai vu personnellement. Je l'ai vu. Et devant Dieu, je peux confirmer que de tout mon cœur, je le crois. De la même manière, il faut que cela soit dit que maintenant, il ne s'agit pas de moi, que Dieu me fasse grâce, il ne s'agit pas de moi du tout. Mais il s'agit de l'appel à sortir et de la préparation et de l'achèvement de l'Église de Jésus-Christ. De la préparation de l'Église épouse pour la venue de l'époux. Et pour cela, le message, dans sa forme originale, est nécessaire. Aucun mélange n'a le droit d'avoir lieu. Aucune interprétation n'a le droit de trouver dans l'épouse. Aucune interprétation. Seulement que le message biblique de la fin des temps, fondé dans les saintes écritures. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de choses pourraient être encore dites. 50 ans, c'est beaucoup. Probablement un demi-siècle. Je regarde à ce demi-siècle en arrière, il y a encore ici une fois encore les 5 prédications originales que en 1958 déjà à Dallas, Texas, j'avais reçu et que Frère Branham me disait avec ce message tu repartiras en Allemagne. Encore dans ce résumé, si est-ce que j'aurais pu produire un effet au-delà des mers? Dieu a déterminé les choses ainsi. Dieu a voulu les choses ainsi. Et voilà qu'il a conduit tout cela d'une manière merveilleuse et dirigé tout cela d'une manière merveilleuse. Nous avons aussi avec plusieurs frères de différents pays eu à parler de ce que, de comment est-ce que le message de la fin des temps est allé dans toute l'Europe, aussi dans l'Europe de l'Est, déjà depuis les années 70, depuis les années 78, alors que le rideau de fer était rideau de fer, nous avons pu, malgré tout, passer et transmettre le message. À Moscou, Dieu a ouvert les portes de l'église baptiste et l'homme avait dit, au cas où le KGB vienne, ils porteront la responsabilité pour moi. Dieu, le service donc militaire, Dieu a fait en sorte, ainsi que sa parole, atteigne les extrémités de la terre. Et si aujourd'hui, si je vous disais encore aujourd'hui, quelle adresse Frère Branham m'a donnée à moi personnellement, de la Suisse, de l'Inde, du Canada, combien d'adresses Frère Branham, sans que je lui demande, m'a donnée, desquelles, après, des contacts ont apparu. Dieu a su toutes choses à l'avance. Et cela dans la responsabilité devant Dieu. Nous expérimentons, nous voyons se dérouler cette étape de temps ensemble. Et je me répète, dans le message biblique de la fin des temps, pas une seule interprétation, pas une seule explication en a le droit d'être trouvée. L'épouse doit et sera une épouse parole. Et je vous demande, ne prêtez votre oreille à aucune interprétation. Donnez votre cœur au Seigneur. Ça, nous l'avons écouté hier. L'adversaire, lui, n'est-ce pas, il utilise la tête toujours. Hein? Et toujours, il donne à manger de l'arbre de la connaissance. Mais Dieu, lui, se révèle. Il révèle sa parole. Et il s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons encore une fois clairement, l'arbre de temps qui maintenant se déroule à l'intérieur de l'Église épouse se joint à ce qui s'est passé par le ministère de Frère Branham sans interruption. Dieu a continué sans notre vouloir. Dieu a fait que nous introduire dans son plan, son destin éternel. Nous voulons, sans nous laisser arrêter, continuer à marcher dans la certitude que nous avons, dans la certitude que nous avons fondée dans cette parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Dieu a envoyé son serviteur le prophète pour nous ramener dans la parole et nous révéler tous les mystères. Et personne n'a le droit de sortir au-delà des Écritures et a le droit d'interpréter ou bien d'accepter une interprétation, mais simplement de demeurer dans la parole et de devenir ainsi épouse parole. C'est ainsi qu'ensemble nous atteindrons le but. S'il vous plaît, soyez certains de cela. Dieu, lui, a pris la responsabilité pour tout que l'épouse de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, selon Éphésiens 4, verset 27, soit sans tache, soit sans ride, apparaissant devant lui. Dieu a pris lui-même la responsabilité. Apocalypse 19, tous ceux qui prendront part au festin des noces de l'agneau, il fera en sorte que tous reçoivent la parole, la reçoivent, l'obéissent et croient et marchent dans l'obéissance de la foi jusqu'à la fin. Bien-aimés frères et sœurs, je lis cela encore maintenant à la fin, encore une fois. C'est à une demande. Ne prêtez votre oreille à aucun homme qui dirait quelque chose sur quelqu'un d'autre. Ne prêtez votre oreille à aucune personne qui veut vous expliquer ce que serait une certaine révélation. Rejetez cela tout de suite et dites à chacun, s'il te plaît, ouvre la Bible et montre-moi cela d'écriture en écriture. Alors vous verrez que l'entretien va être interrompu tout de suite, ça n'ira pas loin. De soi, ça va cesser, ça va s'arrêter. Si ta parole n'était plus valable, où est-ce que ma foi devrait se reposer? Pour moi, il ne s'agit pas de plusieurs mondes. Pour moi, il s'agit seulement de pratiquer ta parole. Encore un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. J'ai parmi vous placé le fondement. Il n'y a pas un autre fondement que quelqu'un pourrait fonder. Est-ce que vous voulez encore un autre fondement? Un autre verset. Éphésiens 2, verset 20. Fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Là où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Dites-moi combien de versets nous pourrions encore écouter. Recevez-vous tous, recevez-les tous avec vous, recevez-les tous à la maison avec vous. Amen. Nous nous levons pour la prière. Chantons comme souvent, tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous courbons les têtes et que nous persévérons dans la prière, je voudrais demander, est-ce que quelques-uns seraient ici que nous devons inclure dans la prière. Ça n'a pas d'importance ce que c'est. Le Seigneur nous accorde tout ce qu'il a promis. Si nous lui le demandons et si nous croyons que nous l'avons déjà reçu, c'est ainsi que cela nous sera accordé. Cela est à lire dans Marc 11 au verset 22. Que ce soit le salut, la grâce, le pardon, la réconciliation avec Dieu, la relation des uns avec les autres. Et il n'a pas le droit d'avoir de l'inimitié dans le cœur, les uns contre les autres. L'inimitié, l'adversité doit seulement être entre deux semences différentes, telles que Dieu, dans Genèse 3, verset 15, 14 jusqu'au verset 16 de Genèse 1, 3 l'a dit. Je mettrai inimitié. Une inimitié qui vient de Dieu est entre deux semences. Entre ta semence et sa semence. Sinon, une autre inimitié ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucune inimitié en dehors de ça qui vient de Dieu. Entre deux mêmes semences, non. Il y a seulement une inimitié entre deux sémences différentes. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, notre heure, notre jour, est là où nous devons entièrement nous mettre du côté de Dieu. Et simplement dire, bien-aimé Seigneur, mon cœur est à ta disposition. Que tu puisses y semer la semence de ta parole en moi. Et que ensuite nous puissions veiller, pour que l'adversaire ne sème pas dans notre cœur la semence d'interprétation et de discorde. Soyez sincères. Frère Branham a utilisé ce mot, la semence de discorde. Qu'est-ce que sont toutes ces interprétations? Et tous ceux qui les propagent, ils sont discordes. On ne peut même pas parler avec eux. Ils n'ont plus la relation avec leurs paroles. Et c'est peut-être raison qu'ils ont perdu l'orientation. Et faisant un pas de plus, une adversité, une limitation, une adversité donc a été établie entre les interprétations et la parole de la vérité, telle qu'elle a été prononcée dans le jardin d'Éden et ensuite manifestée. Une adversité totale entre ces deux semences. La semence divine est portée et la parole est la semence. Nous avons souvent utilisé ces versets de Marc 4, verset 14 et Luc 8, verset 11 et tous les autres versets. Ces deux semences différentes ne pourront jamais être un et unis. Ils ont différentes origines. L'une est le Fils de l'homme. Nous l'avons entendu de Frère Branham. Quand le Fils de l'homme se révélera, il s'est révélé. Il nous a accordé la parole. C'est ainsi que cette partie-là du dessein de Dieu est accomplie. De la même manière, cela s'est accompli aussi que la semence de discorde, a été semée. Je le répète encore une fois, partout où il y a des interprétations qui sont apportées, il y a toujours de la discorde, des disputes, des querelles, des discussions, partout là, mais là où seulement la parole originale est prêchée. Nous sommes conduits à Christ, le chef. Et là, il n'y a plus de disputes les uns contre les autres. Il n'y a plus de discussions. Là, il y a la révélation par le Saint-Esprit qui nous a conduits dans toute la vérité. Qui veut être conduit dans toute la vérité? Amen. Levez la main, nous tous. Nous tous. Dieu l'a entendu, il a vu. Maintenant encore, la question, qui veut aujourd'hui se laisser baptiser bibliquement? Avons-nous quelqu'un? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Un, deux. Oui, mais frère Smith dit, venez devant s'il vous plaît, venez devant, tous ceux qui veulent se laisser baptiser, venez s'il vous plaît maintenant devant, oui, s'il vous plaît, venez simplement devant, ici devant, de manière qu'on puisse prier avec vous. Gloire à Dieu. Soit notre Seigneur, nos bien frères et sœurs de la Pologne sont aussi là. Que Dieu vous bénisse très particulièrement. Nous les avons déjà serrés dans notre cœur. Ici, nous avons notre bien-aimée sœur, nos bien frères et sœurs qui aussi se sont ajoutés de manière nouvelle, qui se soumettent sous la main puissante de Dieu et dans leur cœur ont reçu la parole de Dieu et maintenant veulent marcher dans le chemin de la foi, dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Nous sommes depuis le premier moment liés les uns avec les autres dans le Seigneur, comme si nous nous étions connus déjà depuis toujours. Le Seigneur lui connaît les siens. Bien-aimé frère, que Dieu te bénisse et la décision que tu as prise, que le Seigneur vous bénisse, vous deux, et la décision que vous avez prise. Bien-aimés sœurs, tu veux aussi te laisser baptiser, tu as consacré ta vie au Seigneur, oui, oui, amen, amen. Bien-aimés frères, tu veux aussi te laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, oui, que Dieu te bénisse. Comme c'est bien. 7. Même un nombre bien. Un beau nombre. Après cette réunion, nous irons donc ensemble au bain, donc dehors, au bassin. Et frère Schmidt, un homme de Dieu. Oui, frère Schmidt. Depuis beaucoup d'années, depuis combien d'années? Depuis. Nous nous connaissons depuis 48 ans. Depuis 48 ans. Et Dieu a conduit les choses ainsi. Frère Rousse, en ce moment, ne peut pas être ici. Il a un peu de difficultés pour se déplacer. Mais il est en bonne santé spirituellement. Et il est présent en esprit avec nous. Et nos anciens, mais nous remercions malgré tout le Seigneur de ce qu'il accorde, il a accordé de nouvelles forces pour pouvoir tous de nouveau le servir. Quand je pense à ce que maintenant, mardi matin, déjà, je dois repartir en Afrique. Oui. Qu'est-ce que je dois dire? L'appel a retenti et je n'ai pas le choix. Le Seigneur ne me demande pas est-ce que tu peux ou est-ce que tu ne peux pas. Il accorde toujours de nouvelles forces. Cette fois-ci, c'est le Cameroun, c'est l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, qui sont inclus dans un grand programme, et Dieu voulant, je serai ensuite dans 14 jours de nouveau ici. Pensez à moi dans vos prières. Et maintenant, nous allons encore prier pour vous, vous qui voulez vous laisser baptiser. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, tu as conduit les choses ainsi de ce que nos bien-aimés frères reçoivent la révélation et que le baptême ait lieu en ton nom. Bénis de la plénitude de ta grâce et qu'il soit une bénédiction et conduis-les tous les jours de ta vie jusqu'à que tous passions de la foi à la vue. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous exprimons toute notre reconnaissance, de tout notre cœur aussi pour cette réunion. Dans le saint nom de Jésus.
Amen.
Amen. Nous allons encore demander à frère Kupfer de prononcer la dernière prière. Je voudrais encore remercier tous. Frère Kupfer peut venir. Nous voulons remercier tous de ce que vous soyez venus. Remercier les frères qui traduisent. Remercier tous ceux qui ont part à tout ce qui est fait ici, à la chorale, au chant, aux instruments, à la prière, fondamentalement, à tout ce qui contredit et contribue à ce que la parole de Dieu, pour beaucoup, soit une bénédiction. Nous voulons nous comprendre les uns les autres et être liés les uns avec les autres dans l'amour de Dieu. Et encore une fois que cela soit dit, plus de discussion, plus de discussion. Là où il y a la révélation qui vient de Dieu, là, toute interprétation cesse et toute discussion cesse. Là où il y a encore des interprétations et des discussions, là, il n'y a pas encore de révélation. Donc, que Dieu le Seigneur puisse nous bénir tous et nous accorder la révélation de sa parole et de sa volonté par sa grâce. Pardon. Frère Kupfer ne va pas tenir une prédication.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia. Loué et exalté soit notre Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas d'exception de personne. Nous nous connaissons. Même si parfois nous avons un langage différent, une langue différente, mais nous avons un besoin. Et nous venons, et déjà depuis hier, nous écoutons la parole qui descend du trône, une parole sainte. Il n'y a rien à dire, à ajouter ou bien à retrancher. Bien-aimés frères et sœurs, que nous soyons en Afrique, nous aimons les frères, tous, que ce soit en Russie ou bien quelque part d'autre. Nous aimons les uns les autres. Et le Seigneur nous aime tous. Et nos pensées vont à Golgotha, sur la croix. C'est là qu'il a expié nos fautes. Nous avons besoin de la révélation. Tout ce que notre frère a déjà dit, tout ce qui est écrit, ce qu'il a dit, nous avons aussi les apôtres qui ont déjà dit toutes ces choses. Et ce n'est pas nouveau. Il y a un achèvement parce que le Seigneur l'a dit. Et nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Nous prions aussi pour notre frère. Il n'y a pas de compromis à prendre. De compromis. Ou alors nous sommes des enfants de la lumière, ou bien nous ne le sommes pas. Mais nous avons sa parole par amour dans notre cœur. Pas dans notre cœur seulement, mais cela va plus loin dans notre âme. C'est notre nourriture. Et ça, nous le croyons. Ô notre Dieu, nous avons entendu et nous croyons ta parole. Nous avons aussi compris. Tu as dit, avez-vous compris? Oui, Seigneur, nous l'avons cru. Nous avons compris. Il n'y a plus d'incompréhension, il n'y a que de la vérité, de la clarté. Seigneur, ainsi, aide chacun à croire ce qu'il écoute et à le mettre en pratique. Nous avons tous un besoin, Seigneur. Nous te supplions. Aide-nous. Conduis-nous par ton Esprit Saint pour que ton amour soit manifesté. C'est un désir profond que nous avons. Il n'y a pas d'exception de personne. mais tu es à l'œuvre. Et tu prépares ton église. C'est notre objectif. Si nous n'avons pas ce but, à quoi est-ce que nous devons alors attendre, nous attendre? Où est-ce que nous devons aller? C'est ainsi. Cela n'a pas besoin d'être répété. Nous le pensons ainsi. Chacun le pense ainsi. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, qui nous bénisse et soit avec nous éternellement. Et que nous unis dans son amour. Alléluia. Loué et exalté soit le nom de notre Seigneur. Alléluia.
Amen.
Et que le peuple dise Amen. Chantons encore Je l'aime, je l'aime. Et en anglais. Nous remettons des salutations particulières à nos frères de toute l'Afrique et aussi de toute l'Europe et du monde entier. Remettez des salutations fraternelles partout où vous repartez. À Paris, salutations fraternelles à Bruxelles, salutations fraternelles dans toutes les villes, dans tous les pays, à tous les frères et à toutes les sœurs en Christ. L'achèvement aura lieu dans le monde entier. Au même moment, cela aura lieu que Dieu déversera encore son esprit. Et ensuite, ce que frère Branham a vu s'accomplira. Que une œuvre courte, puissante de Dieu, comme cela n'a jamais eu lieu sur terre, aura lieu. Et cela aboutira, nous conduira dans l'enlèvement directement. Ne vous inquiétez pas, Dieu a fait lui-même son plan. Il l'exécute et nous voulons avoir part à cela. Et nous tous qui avons trouvé la grâce devant Dieu et qui recevons la parole révélée de tout notre cœur et la croyons, nous voulons lui qui a pris le livre scellé dans notre temps et a ouvert les sceaux et a révélé le contenu tel que notre frère Branham le 28 février l'a annoncé en 63 et cela s'est passé. Et tout a été révélé. Et nous remercions Dieu pour cela. Mais en relation avec cela, avec l'ouverture des sept sceaux, il est écrit que personne n'était digne, que ce soit au ciel ou sur terre. Et ensuite l'agneau, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre et de le révéler. C'est pour cette raison que nous élevons maintenant nos mains et nous chantons « Tu es digne, tu es digne ».
Amen.
Amen.
Jeder reicht jedem die Hand.
Saluez-vous. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, le Seigneur nous a bénis.
Amen.
Amen.